Vous écoutez « On lit pour vous ».
De Gisèle à Élisabeth, un texte de Chantal Guy, paru le 21 février 2026 dans la presse. Je scrute avec grand intérêt la tournée mondiale de Gisèle Pélicaud, qui accompagne un peu partout son livre « Et la joie de vivre ». On se l'arrache dans de nombreux pays. Au travers des nouvelles déprimantes, la voix de cette femme est un baume. C'est aussi une femme réservée dans ses émotions. C'est dans sa nature, et peut-être de sa génération, celle de ma mère. Elle n'a pas craqué une fois pendant son procès. Et dans toutes ses entrevues, depuis la sortie de son livre, je ne l'ai vue verser des larmes qu'à une seule occasion, dans un entretien accordé à la BBC. Lorsqu'on lui présente en vidéo les paroles de femmes de tous âges qui la remercient pour son courage et sa ténacité. Elle m'a dit en entrevue que son livre était une façon de remercier ces femmes, et quelques hommes aussi, qui sont venus l'appuyer jour après jour au procès de Mazan. Elle ne pouvait pas leur parler. Tout aurait pu être retenu contre elle. Une victime est tellement scrutée sous toutes ses coutures. On a reproché à Gisèle Pélicaud d'être trop élégante pendant son procès, qu'elle doit même se priver de cette solidarité. Elle pensait y assister une quinzaine de jours seulement, mais elle est allée jusqu'au bout pour ces femmes qui la soutenaient. C'est l'un des grands moments de ce livre, lorsqu'elle décide de lever le huis clos après avoir hésité pendant 4 ans, une bombe qu'elle lance au tribunal. Un silence s'est abattu sur la salle. La surprise figeait tous les visages. Celui du président, manifestement contrarié par notre choix, car c'était rompre les usages auxquels ce magistrat à la moustache devenue blanche s'était habitué. Et ceux de mes agresseurs surtout, qui se décomposaient, se durcissaient comme ceux de leurs avocats. Ils ont réclamé le huis clos à corps et à cri. « Je suis prête, » dit-elle à son avocat qui la prévient qu'on voudra lui faire payer ce choix. Ce qu'il y a de très particulier dans ce procès historique, c'est que la preuve était en béton. Tous les viols ont été filmés par son mari. Gisèle en est très consciente. Les victimes de violences sexuelles n'ont souvent que leurs paroles contre celles de leurs agresseurs. Elle sait qu'au tribunal, on la verra être violée, humiliée, mais surtout qu'on les verra, eux, commettre leurs crimes. En fin de compte, ils seront tous condamnés. Tandis qu'elle doit se retenir de consoler ces femmes qui pleurent à son procès, les accusés, eux, se tiennent les coudes. Je les entendais se parler sans baisser la voix, naturellement portés par une camaraderie virile. Je les voyais se taper dans les mains, s'en aller ensemble au café d'en face à l'heure du déjeuner, discuter au bar, s'offrir des bières, rigoler. Ils se liaient les uns aux autres par la simple conviction qu'ils n'avaient rien fait de mal. C'est fou quand on y pense. On a beau leur mettre en pleine face leurs crimes filmés, la majorité des accusés restent dans le déni. Il y avait des vieux, des chauves et bedonnants, des jeunes tout en muscles. Il y en avait un qui mâchouillait sans cesse son chewing-gum, un autre qui avait fait venir ses amis policiers pour le soutenir. Mais ils avaient tous une chose en commun, les airs qu'ils se donnaient. Une indifférence à tout ce que l'on pouvait dire et penser d'eux, puisque depuis toujours la force était de leur côté. Cette attitude rappelle celle de ces hommes et de quelques femmes aussi qui abreuvent d'injures l'écrivaine Élisabeth Lemay depuis sa chronique à l'émission de « L'huile sur le feu » sur la solitude masculine. une chronique provocante, qui fait réfléchir, c'était le mandat, qui lui a valu des menaces de viol et de mort. Cette même façon de parler fort et de se taper dans les mains sur les réseaux sociaux, de se crinquer à participer à un gangbang numérique, pendant que les féminicides s'accumulent et que la manosphère continue de recruter. L'écrivain Stéphane Dompierre, bouleversé par le reportage de ma collègue Léa Carrier sur cette adolescente qui a été poignardée par un garçon furieux d'avoir été rejetée, est revenu sur la réaction à la chronique d'Elisabeth Lemay sur Facebook. Reprocher le manque de nuance d'une féministe plutôt que de parler des hommes violents, c'est une façon de détourner le regard du problème. Quand je suis découragée de la violence des hommes, je pense à mon amoureux, à mon père, à mon frère, à mes amis les plus chers, mais aussi à Gisèle Pellicot, qui n'a pas renoncé à l'amour et à la joie, ni non plus à se mettre en danger en exposant la vérité à la face du monde. Si sa parole résonne au-delà de Mazan, ce n'est pas pour rien. Le problème est partout. Mais il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, n'est-ce pas? C'était, de Gisèle à Elisabeth, un texte de Chantal Guy, paru le 21 février 2026 dans la presse.
Les écoles alternatives sont victimes de leur popularité au Québec. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 16 février 2026 dans Le Devoir. Le nombre d'écoles publiques alternatives au Québec a connu une hausse importante dans la dernière décennie, mais malgré tout, de nombreux parents n'arrivent pas à y inscrire leurs enfants, faute de places disponibles. Plusieurs d'entre eux optent alors à contre-cœur pour l'école à la maison, le système scolaire ordinaire n'étant pas une option pour eux. En 2014, la province comptait 31 écoles alternatives, un nombre qui a depuis atteint 49 établissements publics rattachés à des centres de services scolaires un peu partout dans la province. Ces 45 écoles primaires et 4 établissements secondaires scolarisent collectivement plus de 8 000 élèves. Cette croissance n'a toutefois pas été suffisante pour répondre à l'ensemble de la demande des parents qui sont nombreux à être déçus de ne pas avoir réussi à inscrire leurs enfants dans une école alternative. Afin de répondre à une partie de cette demande, 8 projets d'école alternative, dont 2 destinés à des élèves du secondaire, sont actuellement en gestation à l'échelle de la province, indique au Devoir la présidente du conseil d'administration du Réseau des écoles publiques alternatives du Québec, Julie Bouchard. Ça, c'est ce qui est officiel, mais on entend qu'il y a des comités qui s'activent un peu partout, poursuit Mme Bouchard, ce qui laisse croire que ce nombre pourrait être plus élevé. Un parcours du combattant. De tels projets, qui tirent leur origine de la mobilisation de parents, peuvent toutefois prendre des années avant de se concrétiser, tout dépendant de l'accueil qui leur sera réservé par les gestionnaires du réseau scolaire. Il y a des centres de services scolaires qui vont montrer moins d'ouverture, placer plus d'obstacles. Sur le chemin des parents tentant de faire naître une école alternative près de chez eux, relève Mme Bouchard. C'est un parcours du combattant, ajoute Christine Brabant, professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, qui a contribué à une étude s'intéressant au modèle de l'école alternative au Québec. Le document, diffusé en 2024, mentionne le caractère ardu, nébuleux et arbitraire du processus menant à la création d'une école alternative qui implique de 4 à 7 années d'efforts pour les parents porteurs de celui-ci. Un délai qui démobilise plusieurs d'entre eux, mentionne l'étude. Les parents qui sont vraiment désireux de fonder ce projet-là, par le temps que le projet se concrétise, leurs plus vieux enfants n'ont généralement même pas la chance de fréquenter l'école alternative qui vient d'ouvrir, puisqu'ils ont, entre-temps, fini leur parcours au primaire ou au secondaire, constate Mélanie Tremblay. Cette dernière est mère de 2 enfants de 9 et de 11 ans, fréquentant une école alternative à Delson, en Montérégie. En entrevue, elle raconte que plusieurs parents s'étaient mobilisés pour qu'une école secondaire alternative voit le jour dans sa ville, en vain. Malheureusement, il n'y a pas de bâtiment ni de locaux disponibles, déplore-t-elle. Des parents impliqués. Si le modèle de l'école alternative plaît à une minorité grandissante de parents, dont une dizaine se sont confiés au devoir, c'est notamment parce qu'il leur donne l'occasion de s'impliquer directement dans la classe de leurs enfants, dans certains cas, jusqu'à plusieurs heures par semaine. C'est dans l'air du temps. Il y a un bon nombre de parents qui veulent le bien-être de leurs enfants et veulent avoir leur mot à dire sur l'éducation qu'ils reçoivent, constate Christine Brabant. L'absence de notes chiffrées sur les bulletins de leurs enfants, le nombre réduit, voire l'absence, de devoirs, de même que l'existence de classes multiniveaux permettant aux élèves d'apprendre à leur rythme, sont également des facteurs qui plaisent à des parents qui trouvent trop rigide l'école publique traditionnelle. Ça fait déjà quelques années que je ne crois plus au système d'éducation régulier qu'on a, lance Virginie Amiot-Girotteau, dont l'enfant fréquente l'école alternative Atelier, dans le nord de la métropole. Elle se réjouit de constater que, dans cet établissement, on met moins de pression à la performance sur les épaules des élèves, dont on valorise l'autonomie. L'enseignement est beaucoup plus personnalisé pour chaque élève, ce qui vient combler une lacune importante du réseau scolaire public, note à son tour Lucie Benoît, dont les enfants ont fréquenté l'école L'Envol du Colibri à la Chute. La maison comme solution de repli. Dans les secteurs où la mobilisation de parents n'a pas permis la fondation d'une école alternative, des parents qui s'opposent à l'idée d'envoyer leurs enfants dans un établissement public classique et qui n'ont pas les moyens d'opter pour la voie du privé, décident d'enseigner à leurs enfants à la maison. On va offrir l'éducation alternative à notre enfant nous-mêmes, dans la mesure où on ne peut pas l'offrir dans le système scolaire présentement, lance Ève Denis. Elle enseigne à domicile à sa fille, à Granby, où l'absence d'une école primaire alternative a incité plusieurs parents à se relever les manches, puis à s'occuper eux-mêmes de l'éducation de leurs enfants. Mona Baker envisage d'ailleurs d'opter pour l'école à domicile si elle ne réussit pas à inscrire son enfant dans une école alternative pour la prochaine rentrée scolaire. Pour augmenter ses chances, elle a déménagé de Montréal à Longueuil, où le nombre de parents souhaitant inscrire leurs enfants dans ce type d'établissement est moins élevé. Je croise les doigts pour avoir une place pour le mois de septembre, dit la mère de famille, dont les finances pourraient être durement affectées si elle décidait d'enseigner elle-même à son enfant. Or, pour elle, laisser son fils dans l'école qu'il fréquente actuellement n'est pas une option. C'était Les écoles alternatives sont victimes de leur popularité au Québec. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 16 février 2026 dans Le Devoir.
Mesurer la température de la planète. Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 26 janvier 2026 dans la presse. L'agence européenne Copernicus a annoncé récemment que la planète s'est réchauffée de 1,47 degrés Celsius en 2025. Mais comment arrive-t-on à mesurer de manière aussi précise la température à l'échelle planétaire? Un défi complexe. Depuis que je lis des articles sur le réchauffement de la planète, j'en ai trouvé aucun qui nous explique comment on mesure la température de la Terre. Pourriez-vous m'aider? Nous a écrit récemment Jean-Pascal Souk. Ce n'est pas simple. Il y a beaucoup d'étapes. Répond Angelica Alberti Dufort, spécialiste des changements climatiques au consortium de recherche Uranos. Car le défi n'est pas de mesurer la température à un moment et à un endroit précis, mais d'établir la moyenne la plus exacte possible à l'échelle de la planète. On combine d'abord toute l'information disponible, signale Frédéric Fabry, professeur de sciences atmosphériques et océaniques à l'Université McGill. On prend des mesures météorologiques à différents endroits, dans des aéroports, à la ville, à la campagne. Ce sont des stations avec des thermomètres qui mesurent la température à environ 2 mètres du sol. Fait à noter, l'Organisation météorologique mondiale, OMM, accrédite 6000 stations réparties un peu partout sur la planète, dont les standards sont reconnus par l'agence. Des millions d'observations sur la température. Ces données sont complétées par celles en provenance de bateaux, de bouées océaniques, d'avions, de ballons sondes et de satellites, précise M. Fabry. On compte, entre autres, sur le réseau Argo. Constitué de 4000 bouées à la fine pointe de la technologie, capable de mesurer la température à la surface des océans, tout comme jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Voyez une animation illustrant le fonctionnement du réseau de bouées Argo, en anglais. En gros, on obtient des millions d'observations sur la température, précise Angelica Alberti Dufort. Toutes ces données sont utilisées pour alimenter ensuite un modèle informatique. Il y a des zones peu accessibles sur la planète pour lesquelles nous avons moins de données. Et c'est là que les modèles informatiques peuvent remplir les trous, précise Frédéric Fabry. Ces données contemporaines sont ensuite comparées avec celles de l'ère pré-industrielle, ce qui permet d'établir l'ampleur du réchauffement observé au cours des 200 dernières années. À ce stade-ci, les scientifiques se font souvent demander comment ils peuvent connaître, par exemple, la température de l'air en 1850. À la fin du 19e siècle, il y avait quelques stations météo qui mesuraient, entre autres, la température dans certaines grandes villes, rappelle Frédéric Fabry. On a aussi toute une série de mesures indirectes, comme les cercles de croissance des arbres ou encore les échantillons de glace, qui permettent d'extrapoler des données précises et estimer la température à une période donnée. Une autre source de données pour les scientifiques, ajoute M. Fabry, ce sont les rapports produits par des moines au Moyen Âge. Les moines étaient très bons pour collecter des informations concernant les vendanges. Certaines abbayes ont notamment colligé des informations sur les vendanges pendant plusieurs centaines d'années, comme l'a démontré une étude parue en 2019 dans la revue Climate of the Past. Avec ces données très précises, qui indiquaient entre autres le début des vendanges, les scientifiques ont pu croiser ces résultats avec d'autres informations scientifiques pour mieux estimer les températures de l'époque. De légères variations. Les principales agences mondiales comme Copernicus, la NASA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, le Met Office au Royaume-Uni ou encore l'Université Berkeley aux États-Unis arrivent sensiblement au même résultat chaque année, à quelques dixièmes de degré près. La NASA, par exemple, a estimé le réchauffement planétaire en 2025 à 1,45 degré au-dessus du niveau observé à l'ère pré-industrielle, soit 0,02 de degré de moins que les résultats de l'agence Copernicus. Des écarts qui s'expliquent par les recettes différentes employées par les principales agences, mentionne Frédéric Fabry. Ces recettes, ce sont les modèles informatiques qui traitent l'immense quantité de données à analyser. C'est tout à fait normal, il y a de petites différences selon les agences, affirme M. Fabry. Il y a aussi des variantes dans les méthodologies utilisées, ajoute Angelica Alberti-Dufort. Une chose est sûre, à quelques centièmes de degré près, chacune de ces agences fait la même démonstration année après année. La planète se réchauffe de plus en plus rapidement. C'était « Mesurer la température de la planète », un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 26 janvier 2026 dans La Presse.
Ces bruits que vous ne supportez pas. Un texte signé Olivia Lévy, publié dans La Presse du 1er mars 2026. Les bruits de mastication vous sont insupportables? Vous avez une profonde aversion pour les rifflements et raclements de gorge, à tel point que vous avez des réactions de colère démesurées? Cette intolérance sonore s'appelle la misophonie, M-I-S-O-P-H-O-N-I-E. La misophonie, c'est l'aversion pour certains bruits spécifiques qui font partie du quotidien. Les bruits de bouche, de mastication, des bruits qu'on fait quand on mange de la soupe ou des chips, des raclements de gorge, des cliquetis de stylo, des tapotements sur un clavier. Citation. C'est un trouble de la tolérance sonore lié à la présence de son déclencheur qui suscite des réactions émotionnelles excessives comme la colère, la rage, l'anxiété. Fin de citation, explique Sylvie Hébert, professeure et responsable du programme d'audiologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Citation. En audiologie, on considère la misophonie comme un trouble en soi. Mais il n'est pas très bien délimité. Il peut y avoir les caractéristiques de l'hyperacousie, qui est une sensibilité plus grande que la normale au son. Fin de citation. La professeure précise que la misophonie touche les gens plus anxieux et se déclenche très souvent au moment de l'adolescence, surtout chez les jeunes filles, dans des contextes familiaux, notamment au moment des repas. Citation. Tous les bruits de mastication, les bruits qu'on peut faire quand on mange des chips ou du pain grillé, ça me met en colère. Je dois sortir de la pièce, c'est plus fort que moi, confie Gabriel Leblanc-Huard, 27 ans, qui souffre de misophonie. La doctorante en travail social à l'Université Laval dit avoir une sensibilité au son en général, mais certains sons spécifiques lui sont insupportables. Citation. C'est difficile à décrire, mais je ne peux pas contrôler cette colère. Je peux même pas éclater en larmes. Fin de citation. C'est à l'adolescence que ce trouble s'est développé. Pour le gérer, elle met des bouchons adaptés qui laissent passer les fréquences de voix, mais qui coupent les autres sons. Citation. J'ai aussi des écouteurs à suppression de bruit actif que je porte 6 heures par jour, ce qui m'apaise. Fin de citation. Gabrielle Leblanc-Huard arrive à mener une vie tout à fait normale. La seule chose qu'elle trouve parfois plus difficile est le regard des autres. Citation. On a l'air d'être des personnes intolérantes, exigeantes et rigides, mais ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut parler davantage de la misophonie pour sensibiliser les gens, leur dire que c'est un trouble qui existe vraiment et que ce n'est pas un manque de volonté de notre part. Fin de citation. La misophonie est un trouble méconnu, peut-être parce qu'on manque de données sur le sujet. Citation. On ne parle pas assez des troubles auditifs qui touchent pourtant de plus en plus de gens, pense Philippe Fournier, professeur adjoint au programme d'audiologie de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Même s'il n'y a pas encore beaucoup de recherches sur la misophonie, certaines hypothèses sont avancées. On sait qu'il y a une composante psychologique importante dans cette intolérance sonore et une réaction physiologique. Ce ne sont pas les caractéristiques acoustiques du son qui gênent, mais peut-être ce qu'il représente. Fin de citation, Philippe Fournier. La neuropsychologue Karine Doucet rappelle que la misophonie n'est pas reconnue dans le DSM-5, le manuel de référence des diagnostics de troubles mentaux, même si cela provoque une détresse affective chez les misophones ainsi qu'à leur entourage. Citation. C'est un phénomène neurocognitif complexe, souligne-t-elle. Ce serait lié à l'hyperactivité d'une zone du cerveau qui gère les émotions. C'est ce qui provoque des réactions fortes. On voit également une réponse physiologique du corps, très souvent une augmentation cardiovasculaire. Comment traiter la misophonie? Il n'existe pas vraiment de traitement spécifique si ce n'est d'apprendre à mieux maîtriser son stress. On peut traiter la misophonie un peu comme les phobies avec une thérapie cognito-comportementale, avancent les spécialistes interrogés. Pour Sylvie Hébert, la misophonie est à la croisée des chemins entre l'audiologie et la psychologie. Citation. On peut proposer une thérapie cognito-comportementale en exposant les personnes à certains sons déclencheurs et tenter de retrouver du contrôle sur ces sons. On peut aussi atténuer cette intolérance sonore par la relaxation. Fin de citation. La neuropsychologue Karine Doucet propose aussi d'éviter de s'exposer trop souvent aux sons déclencheurs de mastication ou de raclement de gorge. Citation. Le but est de tolérer un peu plus ces bruits. L'entourage peut s'ajuster également. Fin de citation. Et c'est la fin de ce texte d'Olivia Lévy, titré « Ces bruits que vous ne supportez pas », publié dans l'édition du 1er mars de La Presse.